Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 35e édition de Biotope, une émission relayant les initiatives écologiques ayant lieu dans la vallée de la Drôme, une émission financée par BioVallée et réalisée alternativement par Radio Saint-Ferréol 94.2 FM et RDWA 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous vous proposerons un deuxième volet sur le sujet de l'autonomie énergétique, après celle parue le 13 septembre où nous mettions en valeur les initiatives de communes du Diois en matière de picocentrales hydroélectriques. Cette fois, nous évoquerons l'énergie solaire avec deux installations de cellules photovoltaïques sur des toits d'entreprises locales, une sur les bâtiments de Jaillance et une sur l'abattoir de Die. Sur le plateau de Erdiwa, pour parler de ces initiatives tout à fait dans l'air du temps, Vincent Lefort, viticulteur et vice-président de la cave coopérative Jaillance, et Jean-Pierre Brun, de l'entreprise dromoise du conseil en réhabilitation énergétique Domelio, qui a collaboré avec Jaillance dans ce domaine. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on va peut-être commencer par le début. Pourquoi Jaillance a voulu se lancer dans ce projet de cellules photovoltaïques ?
Comme vous savez, Jaillance est une coopérative, donc il y a un conseil d'administration composé de viticulteurs. Et ce conseil est là pour aussi réfléchir à l'avenir de la coopérative. Il nous a semblé évident, en tout cas au bureau de la cave, que parmi les axes stratégiques sur lesquels il fallait réfléchir, il y avait ce sujet du développement durable et en particulier de l'autonomie énergétique. La cave est quand même une petite usine hein, avec une consommation d'électricité assez importante parce que son procédé de fabrication de la clairette de Die consomme beaucoup d'électricité. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse à est-ce qu'on serait encore capable de fabriquer de la clairette à un coût raisonnable dans les années futures avec les tensions qu'il peut y avoir pour l'énergie.
Ça partait d'un constat économique, donc c'était pas plutôt militant parce que vous vous lancez de plus en plus dans le bio.
Les deux. Effectivement, on est un certain nombre, parmi les producteurs bio entre autres, à avoir ce type de réflexion. Mais la bio, c'est un aspect de la durabilité. Hein. D'ailleurs, on n'est pas forcément tout à fait durable dans nos manières de cultiver la vigne, même en bio. Mais en tout cas, on est alerté, disons, par tous ces problèmes de l'écologie. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontré avec Jean-Pierre Brun. C'était parce qu'on partageait un certain nombre de soucis et de discussions, en fait, amicales, disons, pas spécialement dans le cadre de la cave. Et donc, on a eu envie de formaliser ces interrogations, ces discussions, au travers d'un groupe de travail qui s'est très vite organisé au niveau du conseil d'administration avec les administrateurs qui étaient intéressés et où on a survolé, ou en tout cas, on s'est informé d'abord et où on a vu un peu toutes les problématiques qui concernaient l'énergie, mais pas seulement. Et donc, voilà, il y a les deux. Il y a effectivement l'avenir économique de l'entreprise, mais je pense que c'est l'avenir économique de nos sociétés, tout simplement, hein, pas spécialement uniquement de la cave. Et aussi un certain militantisme, mais on pourrait dire presque secondaire.
Vous avez réussi à vendre facilement ce projet aux viticulteurs adhérents ?
Alors justement, c'est tout l'intérêt de la proposition de Domelio de mettre l'accent rapidement sur le projet photovoltaïque. C'est parce que justement, c'était une opération rentable à l'époque, en tout cas, et qui, je pense, l'est toujours, mais en tout cas, qui était intéressante à mettre en place rapidement à cette époque-là, puisqu'on était encore dans un système de contrat avec l'État qui était favorable. Donc, c'est un gros investissement, bien sûr, couvert par des emprunts, mais il y avait un retour intéressant. Donc, même les gens, disons, un peu éloignés de toutes ces problématiques-là, ont été sensibles au fait qu'ils n'allaient pas perdre de l'argent, en tout cas.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Dans le cadre de cette émission, il nous a semblé intéressant d'interviewer un viticulteur qui était impliqué dans ce projet de Jaillance, à savoir M. Curcio. M. Curcio, bonjour.
Bonjour.
Vous avez accepté de participer à ce projet de cellules photovoltaïques sur votre hangar agricole. Qui a porté le projet alors ? Est-ce que vous avez été secondé ?
Ben, c'est moi qui l'ai porté le projet et puis je me suis fait aider par le cabinet d'Omelio quoi, pour tout ce qui était compliqué, administratif, études sur le hangar, tout ça. Quoi.
Est-ce que c'était compliqué justement alors administrativement parlant ?
Ben, c'était beaucoup de papiers pour savoir si on pouvait l'implanter, pour savoir si ERDF nous subventionnait à 60 centimes, pour savoir si on rentrait dans les clous parce qu'il y avait des dates. Donc oui, c'était un peu compliqué.
Cette installation, de quoi s'agit-il alors ?
Ben, c'est une installation électrique, photovoltaïque, qui est sur un hangar. Donc j'ai 115 modules d'une puissance de 32 kW et d'une production annuelle qui est d'environ 40 000 kWh. Ça correspond à peu près à environ, hors chauffage, ça correspond à peu près à 7-8 maisons.
Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés concernant ce chantier ?
Bon, les difficultés, c'était plutôt des difficultés administratives que Domelio m'a aidé à surmonter. Les permis, la mairie. Et puis, j'ai eu des difficultés un peu au départ. C'est ce qui a fait que j'avais failli pas le faire. C'est que mon hangar, il était vieux et voilà, il a fallu qu'on fasse venir un bureau d'études, ce qui s'appelle Alpe Control. Voilà, qui a étudié ma structure pour savoir si elle pouvait supporter le poids en plus des panneaux. Quoi. Ouais, puis quand ça a été fait, puis qu'il a fallu faire quelques modifications, après, c'était bon.
Alors combien ça a coûté et est-ce que d'autres moyens ont été nécessaires pour mettre en œuvre cette action ?
Ça m'a coûté environ 112 000 euros hors taxes, tout compris avec le maître d'œuvre, quoi, enfin Domelio, qui a suivi le chantier... Enfin, heureusement qu'ils y étaient là, parce que sinon, je pense pas que je l'aurais fait.
C'est à ce point complexe.
C'est complexe, et puis travailler avec des grosses entreprises, c'est compliqué aussi. Quoi.
Donc en fait, si on devait résumer, vous êtes quand même satisfait d'avoir installé des cellules photovoltaïques sur votre hangar ?
Ben, nous, on est super contents de l'avoir fait, parce qu'on produit de l'électricité. Ça nous fait un complément de revenus. Et puis, c'est surtout que par rapport à toutes les prévisions que le cabinet d'Omelio nous avait fait, eh ben, on est même un peu au-dessus, quoi. On n'a pas eu d'échec au niveau de la... Parce qu'en fait, nous, on n'était pas exposés de la bonne façon. Mais en fait, en faisant les deux toitures, eh ben, de chaque côté, on arrivait à un bon rendement quand même.
Si d'aventure des gens voulaient se lancer dans ce type de projet, est-ce que vous accepteriez de donner votre numéro de téléphone pour partager votre expérience ?
Ben, mon numéro de téléphone, c'est le 06 80 47 49 62. Mais sinon, il vaut mieux peut-être qu'ils appellent le cabinet d'Omelio. Ils seront sûrement mieux renseignés.
Et bien, monsieur Curcio, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Ben voilà. Merci.
Au revoir.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Et l'entreprise d'Omelio, une fois qu'elle a été un petit peu investie de cette réflexion par Jaillance, combien de temps ça vous a pris de passer à l'action et d'installer les cellules photovoltaïques ?
Quelques mois.
Pas plus.
On va dire pas plus à partir du moment où, début 2009, je suis intervenu pour réaliser un diagnostic énergie sur le site industriel de la CAP Jaillance, qui a permis de mettre en évidence quels étaient les niveaux de dépendance et pour quel type d'énergie. Et de proposer des solutions justement qui permettaient de s'affranchir un petit peu de cette dépendance. Il s'est avéré que la consommation en électricité était assez importante, notamment pour les besoins de froid. Pour donner un chiffre, c'est de l'ordre de 3500 MWh dans l'année. Et sur ce poste-là, ma proposition a été de pouvoir compenser autant que possible cette consommation par une production locale d'énergie renouvelable, à contrario du type d'électricité qui approvisionne actuellement l'installation. Et dans ce cadre-là, de pouvoir utiliser les technologies disponibles à des conditions intéressantes, autant que possible en pouvant associer le plus possible des coopérateurs. Donc c'est la raison pour laquelle on a retenu de s'orienter sur du photovoltaïque avec des installations en toiture. L'objectif étant de pouvoir valoriser des surfaces de toiture. Alors d'une part, concernant les bâtiments de la cave, et également, et c'est un petit peu l'originalité de la démarche, de pouvoir décentraliser localement à l'échelle du territoire en valorisant les surfaces de toiture sur les bâtiments des adhérents de la cave coopérative. Donc le diagnostic a été remis en mai 2009. Une première réunion a été proposée à l'ensemble des adhérents en octobre de la même année. Les premières études de faisabilité ont été lancées dans les jours et les semaines qui ont suivi, de façon à pouvoir réaliser les demandes de raccordement. Première étape dans la procédure administrative d'un projet de photovoltaïque, fin décembre 2009. Donc ce projet effectivement a été conduit en quelques mois. Il a concerné au final 27 installations, dont deux sur les bâtiments de la Cape Joyance, qui représentent une puissance de production de 1500 kW pour une production qui va avoisiner les 2000 MWh. Donc c'est intéressant parce que cela représente plus de la moitié de la consommation en électricité de la Cape Joyance. Donc ça permettait de répondre de façon concrète et très significative justement à l'objectif d'atteindre non pas une autonomie énergétique, on va dire, en termes de flux physique, mais au moins en termes de compensation. Et donc cette expérience, c'est vrai, a été intéressante à différents niveaux parce qu'effectivement, on a pu rapidement la mettre en place. On l'a fait dans un contexte favorable en matière de conditions financières, on y reviendra tout à l'heure. Et en même temps, donc, ça a permis de mobiliser un certain nombre d'adhérents dans une démarche qui justement vise à s'interroger et puis à explorer autant que possible des solutions qui permettent de répondre aux enjeux énergétiques. Ensuite, on a continué à travailler, comme Vincent Lefort le disait, avec un groupe de travail de façon plus générale. Voilà.
Oui, parce que vous avez parlé de diagnostic énergétique qui a montré qu'il y avait de gros besoins en électricité, mais il y a d'autres pistes à explorer pour utiliser moins d'électricité. Je suppose que vous avez peut-être pensé, par exemple, aux économies d'énergie, à l'isolation des bâtiments.
Absolument. Alors, c'est vrai que pour les gens qui s'intéressent un petit peu au sujet, on va nous répondre qu'on a pris le problème à l'envers, en commençant à chercher à trouver une solution de substitution à une source d'énergie non renouvelable. Donc on était bien conscient de ça, sachant qu'effectivement dans le diagnostic, on a commencé à mettre en évidence quels étaient les points sur lesquels on pouvait intervenir, non pas pour substituer, mais pour réduire les niveaux de consommation pour satisfaire un même usage. C'est la logique de commencer par travailler sur la sobriété énergétique, ensuite sur l'efficacité et après sur les énergies renouvelables. Donc on a pris volontairement le contre-pied de ce triptyque parce qu'avec le projet photovoltaïque, on savait qu'on avait là le meilleur moyen de pouvoir mobiliser un maximum de personnes dans cette dynamique-là parce qu'il y avait effectivement une situation favorable en termes financiers. Mais de toute façon, on a continué en parallèle et maintenant on continue à développer la réflexion et de mener des actions justement qui permettent de répondre globalement à ces questions.
Ce qu'il faut rajouter, c'est que le besoin en électricité de la cave, c'est essentiellement des besoins industriels, ce n'est pas des besoins de confort ou de chauffage, hein. C'est quand même lié au processus de fabrication de la clairette. Donc c'est bien sûr améliorable, mais si c'est améliorable, c'est au niveau projet industriel.
Néanmoins, puisque vous avez des cellules photovoltaïques sur deux bâtiments et les autres installations sur un certain nombre d'autres bâtiments agricoles un peu répartis sur le Diois, de toute façon, cette électricité repart à EDF.
Alors, cette électricité, elle est injectée sur le réseau de distribution qui permet d'alimenter tous les usagers en électricité du territoire. Donc, effectivement, l'électricité photovoltaïque est vendue par contrat à EDF, puisque c'est le seul opérateur sur le secteur qui peut accepter d'acheter l'électricité à des conditions qui sont intéressantes. Mais bon, ça, ce ne sont que des questions d'ordre administratif, puisque ce qui compte, c'est de pouvoir mettre à disposition sur le territoire et donc sur le réseau de distribution électrique une source de substitution à celle que l'on connaît, quoi.
En reparlant des pistes que vous explorez, puisque vous avez pris le triptyque à l'envers, quelles sont donc ces pistes que vous explorez peut-être encore de nos jours, qui ne sont pas encore abouties? J'ai entendu dire un projet biomasse, non? Ou d'agrocarburant? Quelles sont les pistes alors?
Alors ces pistes-là, effectivement, elles sont complémentaires parce qu'elles permettent d'intervenir sur les autres sources d'énergie, mais autant biomasse que on va dire, carburant d'origine végétale, on est toujours dans la logique d'énergie renouvelable. Et donc, effectivement, si on reprend quelques chiffres pour le site industriel de la cave, on a des besoins thermiques qui sont satisfaits par une consommation de 120 000 litres de fuel. donc ce qui représente encore une quantité d'énergie importante, qui pourrait être remplacée par de la biomasse. Donc là, il y a un projet qui est en cours de réflexion. Mais à côté de ça, étant donné que ces besoins thermiques correspondent à la fois à du chauffage de bâtiments et à du process pour chauffer de l'eau chaude, il y a déjà eu beaucoup d'efforts qui ont été engagés pour réduire cette consommation, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, la consommation était d'environ 200 000 litres. Donc il y a une réduction quasiment de moitié déjà qui a été réalisée à peu près en une dizaine d'années. Il y a encore quelques petites possibilités d'économie. Donc elles seront engagées. Sur l'électricité, il y a des possibilités en matière de récupération de chaleur sur les groupes froids, donc qui permettraient de réduire également la consommation en électricité. Voilà.
Et en matière d'économie d'énergie, je veux dire d'isolation des bâtiments, il y a encore des choses à réaliser ?
Alors absolument. Là également, un des axes du diagnostic énergie qui a été engagé a mis en évidence les gains qu'il y avait en isolant les bâtiments pour réduire d'à peu près 30 à 40% la consommation d'énergie nécessaire pour le chauffage. Donc ça, ce sont des travaux de très grande ampleur qui vont demander beaucoup d'investissements et donc ils sont actuellement en cours d'étude.
Alors si on en revient un petit peu sur le photovoltaïque, est-ce que vous pourriez nous faire une description des installations ? Quelles sont les technologies ? Quel en a été le coût ? Un petit portrait technique de ce que vous avez préconisé et de ce qui a été installé.
Alors on a fait le choix d'utiliser des technologies matures. Ça consiste en fait en des panneaux photovoltaïques constitués de cellules à base de silicium, mono ou polycristallin, bon ça ne change pas grand-chose. C'est une technologie maintenant qui est maîtrisée depuis plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, il en existe qui sont peut-être un petit peu plus performantes, qui présentent d'autres avantages, mais pour lesquels il y avait moins de recul. Donc on a préféré rester sur ces technologies-là. En fait, le principe photovoltaïque consiste à permettre un déplacement d'électrons. Petite particularité, c'est qu'on a un courant continu, donc qui avance toujours dans le même sens, et que le courant que l'on utilise pour la plupart de nos applications et qui est délivré sur le réseau, c'est un courant alternatif. Donc ce courant continu, il faut le transformer et le mettre, on va dire, dans une forme qui est compatible avec celle que l'on trouve sur le réseau. Donc c'est là qu'on trouve un autre équipement dans une installation qui est l'onduleur, dont justement la mission sera de transformer le courant pour l'injecter sur le réseau. Donc toutes les installations sont conçues selon ce système-là. Toutes les installations donc, consistent en une installation en toiture de bâtiment. Alors sans rentrer dans le détail, on a utilisé tout le temps la même technique qui consiste à associer un système de couverture à base de bac acier et puis de différents systèmes qui permettent de fixer les panneaux sur ces bacs acier qui sont par exemple des rails. Ensuite, 27 installations au total sont concernées, d'une surface allant d'environ 150 m² à 2000 m².
Et en tout, ça fait combien ?
En tout, 12 000 m² répartis sur 16 communes. Donc la plupart des communes de l'aire d'appellation de la Clairette, on va dire, sont représentées d'une certaine manière. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, cela permet une assez bonne distribution de cette production décentralisée.
Qui a accepté de mettre des cellules photovoltaïques ? Vous avez proposé aux viticulteurs, qui veut mettre une installation photovoltaïque sur son hangar et qui accepte ?
Oui, c'est ça. On a donc organisé une réunion avec les adhérents. On avait sans doute envoyé un courrier avant et donc il y en a un certain nombre qui sont venus et ceux qui ont décidé de s'installer se sont décidés très vite. Il y a eu une ou deux ou trois personnes qui se sont rajoutées après. Mais oui, ça s'est fait en un mois de temps pratiquement, hein, entre la première annonce et les décisions fermes, disons. Mais l'avantage, c'est que donc, quand on veut faire une installation chez soi, il faut faire une pré-étude, c'est-à-dire déjà la disposition du bâtiment, son orientation, les masques éventuels, montagnes, arbres, etc. qu'il y a. Il faut qu'il y ait un prévisionnel de production. Il faut qu'on sache un peu combien ça va coûter, combien on va être obligé d'emprunter et sur combien d'années on risque de s'en sortir. Et donc toute cette étude-là a été faite par le cabinet d'Omelio de manière groupée. C'est ça le gros atout et c'est comme ça qu'on voudrait continuer à travailler, y compris dans la biomasse, y compris, c'est-à-dire de réfléchir collectivement, de prendre des axes et ensuite de pouvoir faire bénéficier un maximum de nos adhérents des études qui sont faites, qui sont toujours un petit peu chères. Ou, voilà. Et Après, l'étape suivante, disons, c'est qu'il y a eu un appel d'offres pour que des entreprises se proposent pour faire les installations, pour vendre les panneaux déjà et les installer. Et donc, ce travail de choix a été fait aussi collectivement, piloté par Domilio, mais donc la décision a été prise par le petit groupe qui s'occupait de ça. Et donc, tout le monde a eu accès aux mêmes tarifs, aux mêmes négociations. Et ça, c'est très important parce que c'est compliqué quand même, hein, quand on se lance tout seul, franchement.
Et donc, les installations sur les hangars agricoles des viticulteurs qui ont accepté appartiennent à Giants ?
Non, elles sont privées.
Elles sont privées, mais voilà. Qui les a financées alors ?
Chacun.
Donc, en fait, l'étude a été financée par Giants et commanditée à Domilio, mais par contre, c'est les viticulteurs qui ont payé chacun leur...
Ouais, on peut dire ça à peu près, oui.
D'accord. Voilà. C'est un sacré montage, quoi.
Voilà. C'est, la propriété des panneaux est individuelle. Hein. C'est quand même un investissement important. Et de toute façon, les banques, elles n'aiment pas trop négocier collectivement. Hein.
Ça fait quoi comme rentrée financière, les mégawatts dont vous avez parlé tout à l'heure ?
Environ 2000 mégawattheures par an. Alors, l'électricité produite donc, est vendue sur le réseau donc à EDF dans le cadre d'un contrat d'achat garanti pendant 20 ans. Selon des conditions qui sont définies par un arrêté ministériel, en date de 2006 en l'occurrence, tarif qui est indexé et qui donc à l'époque était de 58 centimes par kilowattheure. Bah, ça fait environ 1 200 000 euros par an.
Et ça, ce genre d'installation, compte tenu de sa durée de vie, c'est rentabilisé en combien de temps ?
Disons qu'on était sur des temps de retour sur investissement net entre 7 et 10 ans. Donc, ce qui est très honorable.
Sachant que, justement, la durée de vie de ces panneaux photovoltaïques est de combien de temps ?
La durée de vie est beaucoup plus importante que celle que l'on pense, en fait. Plusieurs dizaines d'années, entre 40 et 50 ans, très certainement. En tout cas, c'est les retours d'expérience que l'on a des premières installations qui ont justement cet âge-là et qui, en plus, ont été réalisées, on va dire, dans des conditions de maîtrise technologique qui n'étaient pas aussi avancées que celles que l'on a aujourd'hui. Les onduleurs ont une durée de vie, par contre, qui est plus faible, légèrement supérieure à 10 ans, parce qu'ils fonctionnent sans arrêt, sauf la nuit. Donc, c'est un élément qui est énormément sollicité et qui s'use forcément, quoi. Mais les panneaux, en fait, ont une durée de vie qui pourrait être quasiment illimitée, si ce n'est qu'ils sont exposés aux intempéries. Les cellules sont recouvertes d'un verre qui va s'opacifier dans la durée. Et qui va faire qu'à la sortie, s'il y a de l'humidité qui rentre dans le panneau, effectivement, ça va altérer les cellules. Mais la cellule en tant que telle, si on arrive à bien la protéger, elle a une durée de vie illimitée.
Il faut un laveur de carreaux pour les laver ?
Alors, il faut un laveur de carreaux, pas forcément un laveur de carreaux. En tout cas, il est important que le verre reste le plus transparent possible. Alors, quand on a des toitures qui sont suffisamment en pente, la pluie permettra un auto-nettoyage suffisant. Et là, on a besoin justement de pouvoir ajuster. On a déjà réalisé un certain nombre de tests cette année pour voir s'il est utile effectivement d'avoir un nettoyage manuel complémentaire. Alors jusqu'à ce jour, ça s'est rarement justifié, mais dans certains cas, effectivement, où on peut être exposé davantage aux salissures parce qu'on peut avoir un chemin de terre avec beaucoup de poussière et puis des toits qui sont moins en pente, effectivement, on a bien pris en compte le fait qu'on aurait besoin par moment de nettoyer les panneaux.
En tout cas, vous disiez que la durée de vie des panneaux photovoltaïques était quasi limitée. C'est tant mieux parce qu'on se pose quand même des questions sur le recyclage. Est-ce que c'est si bio que ça, les panneaux photovoltaïques ?
Alors, c'est intéressant parce que notamment les détracteurs amènent souvent cet argument-là. Alors c'est très important de le faire parce que quand on parle de durabilité, il faut raisonner sur le cycle de vie de tout équipement, de tout objet que l'on va utiliser. Donc cela, bien entendu, doit s'appliquer au photovoltaïque. Mais il ne faut pas oublier que ça doit s'appliquer à tout un tas d'autres éléments. Et en matière d'énergie, c'est important de se le poser, notamment sur le nucléaire. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Alors, concernant le photovoltaïque, ce qui est très intéressant de dire, c'est que déjà depuis plusieurs années, la plupart des industriels producteurs de panneaux se sont réunis dans une association qui s'appelle PV Cycle, qui a permis la mise en place de structures, de filières, d'entreprises qui récupèrent les panneaux, les démonte, les recycle, réutilise tout ce qui peut être utilisé. Alors, sachant que dans un panneau photovoltaïque de technologie mature, qu'est-ce qu'on trouve ? De l'aluminium pour le châssis, du verre et puis ensuite des cellules qui sont du silicium, et puis ensuite un petit peu d'autres éléments, notamment des conducteurs électriques et puis des boîtiers de jonction, donc qui sont tout à fait communs, ce que l'on peut trouver sur d'autres équipements électriques. Donc on a un niveau de recyclabilité qui est très élevé sur ces panneaux-là. Alors parfois, c'est vrai qu'on entend dire qu'on a des métaux lourds, alors qu'on ne trouve pas dans ces technologies, on va dire conventionnelles, mais que l'on va trouver dans les nouvelles technologies photovoltaïques dites à base de couches minces. Où là, par exemple, on peut trouver du cadmium, ce qui veut dire qu'il faut être, on va dire, un peu plus exigeant dans la façon de récupérer ces éléments qui peuvent être nocifs.
J'ai une petite remarque à ce sujet, parce qu'une des questions aussi qui nous a été souvent posée par les collègues et puis par tout le monde, c'est oui, mais pour fabriquer ces panneaux, ça coûte très cher, ça coûte beaucoup d'énergie et finalement, c'est pas intéressant. Et pour ce que j'en ai compris, ça peut être à peu près 2 ans dans nos régions, même pas dans certains cas.
Voilà, c'est à peu près ça. Là aussi, ça va dépendre un petit peu de la production que permettront les panneaux. Mais en incluant à la fois l'énergie nécessaire à la fabrication et au transport des panneaux sur site, on est sur ce qu'on appelle un temps de retour énergétique entre 1 an et 3 ans. Alors quand on sait que, comme je le disais, les panneaux vont avoir une durée de vie qui sera assez longue, plusieurs dizaines d'années, en fait, on a un rapport énergie produite sur énergie nécessaire, donc on va parler d'énergie nette, qui est très favorable, contrairement encore une fois à ce que certains parfois disent.
Très bien. Alors on va terminer cette interview sur une dernière petite question. Est-ce qu'on est soutenu pour faire des projets comme ça, que ce soit par l'État ou la région ou le département ou Biovallée? Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu?
Alors à l'époque, il n'y avait pas de soutien et puis on ne cherchait pas forcément de soutien. En dehors du fait que le gouvernement, depuis on va dire quelques années, en tout cas au milieu des années 2000, a voulu encourager le développement du photovoltaïque et donc définir des conditions d'achat de cette électricité-là. Et donc, compte tenu à l'époque du coût de production qui était élevé, ces tarifs de rachat particuliers permettent justement d'assurer la rentabilité. Alors ça, c'est important parce que c'est encore un élément qui revient souvent un petit peu dans le débat pour expliquer que sans ces tarifs de rachat, le photovoltaïque ne serait pas rentable. Là aussi, c'est important de remettre les choses à leur place et dans l'histoire. Comme toute, on va dire, technologie qui a besoin de se développer, on passe toujours par une phase d'apprentissage avant d'arriver à une phase de pleine maturité. Donc le photovoltaïque est encore dans cette phase d'apprentissage. Il faut rappeler qu'il y a 40 années, en France, on a massivement subventionné la recherche-développement, la construction des centrales nucléaires, pour aujourd'hui arriver à des coûts de production, de vente qui sont assez faibles. Précisons également une chose, que ces coûts n'intègrent pas toutes les externalités, alors que dans le photovoltaïque, on n'a quasiment pas d'externalités. Et autre petite précision, c'est que cette courbe d'apprentissage maintenant est quasiment dépassée et on va prochainement atteindre ce que l'on appelle la parité réseau. Le coût de production du photovoltaïque va se trouver inférieur au coût de production de l'électricité que l'on trouve à disposition sur le réseau. Et ça, c'est dans les années à venir et c'est déjà le cas dans les régions les plus ensoleillées. C'est également le cas pour l'éolien, contrairement encore une fois à tout ce que l'on dit.
Bon, c'est vrai que Biovallée ou la région ne sont pas intervenus sur le projet photovoltaïque. D'ailleurs, on n'en avait pas besoin. Par contre, ils ont pris le projet global de réflexion développement durable de la cave comme étant un des projets de la Biovallée. Et du reste, on a présenté un programme d'animation et de travail avec des visites sur tous les autres sujets dont on a parlé, biomasse par exemple, ou alternative au gasoil pour les tracteurs. Et ça, on a des subventions qui sont venues plus ou moins par l'intermédiaire de Biovallée. C'est en tout cas des subventions de la région qu'ils ont portées.
Très bien. Jean-Pierre Brun, Vincent Lefort, merci d'être venu dans cette émission Biotop pour parler d'autonomie énergétique. Et à bientôt.
Merci.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Biotop. Un programme soutenu par Biovallée.